19h30, à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
À la une, Ousmane Sonko à Ouagadougou, le premier ministre sénégalais a rencontré hier le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux hommes doivent notamment discuter de la coopération de leur pays dans différents domaines. En tête, c'est la lutte contre le terrorisme. Une exfiltration qui fait couler beaucoup d'encre au Gabon, celle d'Ali, Sylvia et Noureddine Bongo vers l'Angola. Ils sont tous trois arrivés à Luanda dans la nuit de jeudi à vendredi. Un soulagement pour leurs proches, une inquiétude pour d'autres. Le procureur rappelle que la femme et le fils du président déchu restent soupçonnés, entre autres, de détournement de fonds publics. Lui est détenu à la coordination de la police judiciaire. Succès Masra, arrêté hier, le procureur estime qu'il est en partie responsable d'affrontements communautaires qui ont éclaté au Tchad cette semaine. Les partisans de l'ancien Premier ministre réclament sa libération immédiate et rappellent que leur combat est pacifique. Et puis, dessiné pour attirer l'attention du grand public, nous sommes en Côte d'Ivoire au festival Cocobule, qui met en valeur les dessins de presse et de bande dessinée. Cette année, un accent particulier est mis sur la lutte contre les fausses informations. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est donc arrivé hier à Ouagadougou pour une visite de 48 heures au Burkina Faso. Les deux pays doivent examiner leur coopération dans différents domaines. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
Une visite débutée ce vendredi par un tête-à-tête de haut niveau.
Oui, un entretien entre Ousmane Sonko et le capitaine Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina, qui ne s'est pas exprimé après la rencontre. Le Premier ministre du Sénégal, si, il remercie son hôte pour ce long entretien, un moment pendant lequel ils ont pu passer en revue un certain nombre de problématiques, d'abord sécuritaires. Ce sont les mots d'Ousmane Sonko devant des journalistes hier. Il a transmis, dit-il, un message de soutien absolu, soutien, je cite toujours, au président Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à tout le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme.
Et c'est, Vincent, ce qui conduit le chef du gouvernement sénégalais à envisager une collaboration sur ce plan.
Oui, car selon Ousmane Sonko, il est illusoire de penser que le djihadisme restera simplement dans les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Aucun pays de la sous-région ne sera épargné par cette gangrène si elle continue de s'étendre à travers l'Afrique de l'Ouest, conclut le Premier ministre sénégalais. On n'a pas de détails sur la forme que pourrait prendre cette potentielle collaboration sécuritaire. L'agence de presse sénégalaise affirme qu'une vingtaine d'accords devraient être signés en tout. Ousmane Sonko, qui avant de repartir ce soir, sera présent à l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara à Ouaga.
Merci Vincent Dublange. C'est donc en Angola qu'ont été accueillis Ali Bongo ainsi que sa femme Sylvia et son fils Noureddine. Ils sont arrivés à Luanda dans la nuit de jeudi à vendredi. João Lourenço, lui le président angolais, également à la tête de l'Union africaine, s'est rendu en début de semaine à Libreville à la rencontre de son homologue Brice Clotaire-Oligui Nguema. Les proches de la famille Bongo font part ainsi de leur soulagement. Je vous propose d'écouter la réaction de François Zimré, c'est l'un des avocats de la famille.
C'est pour eux la fin d'un long cauchemar, c'est pour nous le résultat de longs efforts, à la fois sur le plan judiciaire et diplomatique. Il faut être conscient que mes clients sont depuis 20 mois privés de leur liberté, incarcérés de façon arbitraire et cruelle, qu'ils ont été torturés et qu'une grande partie de cette incarcération s'est déroulée dans un second sous-sol, sans fenêtre, sans promenade, sans accès à la famille, sans parloir, avocat. Bref, en violation des droits fondamentaux les plus élémentaires. Et ils vont enfin pouvoir se soigner, car ils sont très atteints par cette détention, parce qu'ils sont physiquement et psychologiquement atteints. Ils ont aussi, je le précise, été très, très largement dépossédés de leurs biens dans le cadre des séances de torture qu'ils ont subies. Donc ces gens ont besoin, cette famille a besoin de se soigner et de tourner la page.
Maître François Zimré qui dit ne pas savoir si Luanda est une étape ou un lieu d'établissement pérenne pour les Bongo. Il estime aussi ne pas croire à un procès équitable au Gabon. Le procureur général gabonais a expliqué hier, je vous le disais en titre, que Sylvia et Noureddine Bongo avaient été remis en liberté provisoire pour raisons humanitaires, mais qu'ils étaient toujours poursuivis pour notamment détournement de fonds publics, corruption, blanchiment ou encore faux et usage de faux, et qu'un procès aurait lieu avec ou sans eux. Soulagement d'un côté, donc crispation et incompréhension de l'autre. Les réactions pleuvent au Gabon depuis l'annonce de l'arrivée des Bongo en Angola. Alain-Claude Bilibinzé, candidat malheureux de la dernière présidentielle, estime que cette libération démontre que la détention, je cite, ne respectait pas le cadre de la loi et de la justice et assure que le président a dû s'incliner face aux exigences internationales. Après ce que tout le monde a compris comme un abus de pouvoir, fin de citation. Des membres de la société civile se font entendre également. Les familles familles de victimes de la crise post-électorale de 2016 notamment. Je vous propose d'écouter Aïcha Tsumbu, présidente de l'association Réconciliation, qui s'est émue de cette exfiltration dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et transmise à RFI.
Vous ne nous avez pas posé la question de savoir ce que nous on voulait. Mais à Sylvia Bongo et à Noureddin, vous avez posé la question de savoir ce qu'ils voulaient. Et bien évidemment, ils vous ont dit, on veut une liberté provisoire. Vous pensez un peu comment nous on se sent? La 5e République là, c'est pour favoriser des personnes qui nous ont massacrés? C'est pour favoriser l'injustice? Parce que Madame Sylvia et Noureddin ont assez de moyens et que des avocats français se sont levés pour venir intervenir, pour venir dire que c'était pas normal. Donc on comprend bien que les droits de l'homme là, c'est à deux niveaux. Monsieur le Président, ce ne fait même pas un mois que vous allez pour le pouvoir. Mais vous avez pu prendre une telle décision. Qu'allons-nous penser de vous? Avons-nous bien fait de vous élire, Président?
Maître Françoise Imré, avocat de la famille Bongo et Aïcha Tsumbu, présidente de l'association Réconciliation. Ils étaient tous deux joints par François Mazet. Je rappelle que notre invité ce samedi matin sur RFI est Alexandre Barrault-Chambrier, vice-président du Gabon. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Succès Masra, détenu à la coordination de la police judiciaire. L'ancien premier ministre tchadien et président du parti d'opposition Les Transformateurs a été arrêté hier matin, vendredi, par des hommes en uniforme à son domicile de N'Djamena. Quelques heures après, le procureur de la République a pris la parole, donnant les motifs de cette interpellation. Succès Masra est ainsi notamment poursuivi pour incitation à la haine et à la violence, en lien avec des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu en milieu de semaine dans le sud du pays. Dans la capitale tchadienne, la correspondance de Victor Moria.
L'ancien premier ministre et ex-candidat à la présidentielle est officiellement poursuivi pour incitation à la haine et à la révolte, complicité d'assassinat, d'incendie volontaire et de profanation de sépulture. Selon le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedalaï, ses chefs d'accusation sont en lien avec les violences communautaires survenues mercredi dans la ville de Mandakao, dans le sud du pays. 42 personnes, des femmes et des enfants, ont été tuées selon les autorités.
Cette implication présumée de M. Asungar Masra Sixé a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens.
Rassemblés au siège de leur parti, vendredi après-midi, les cadres des Transformateurs exigent la libération immédiate et sans condition de leur président et réfutent tout lien avec les violences.
Nous avons dit que notre option, c'est de lutter pacifiquement en respectant les lois de ce pays. Et si jamais un jour nous nous apercevons que cela ne donne pas de résultat et que nous devons changer d'option, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra l'annoncer. Nous le dirons nous-mêmes à notre peuple, ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui.
Dans l'après-midi, Succès Masra a pu recevoir la visite de ses avocats ainsi que celle de deux vice-présidents du parti. Victor Morian Djamena, RFI.
J'ajoute que le gouvernement tchadien a tenu un point presse hier en fin d'après-midi. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité et de la communication ont tous trois affirmé qu'un audio de Succès Masra était entre les mains de la justice. Dans cet audio que RFI n'a pas encore pu authentifier, le président des Transformateurs appellerait, selon le gouvernement, une partie de la population à s'armer contre une autre. L'actualité du continent en bref. En Libye, un policier tué lors d'une tentative d'assaut de manifestants contre le siège du gouvernement de Tripoli. Selon des sources officielles, sur fond de regain de tension vendredi soir dans la capitale libyenne, le policier a été abattu par des inconnus et a succombé à ses blessures selon un communiqué. L'exécutif a dit avoir déjoué une tentative d'assaut du bâtiment menée par un groupe mêlé à des manifestants qui a tenté d'y mettre le feu avec des cocktails Molotov. Et auparavant, des milliers de manifestants s'étaient réunis non loin de là et dans le calme sur la place des Martyrs au centre de Tripoli pour protester contre le gouvernement d'Abdelhamid Beyba et pour réclamer sa démission. Dans son communiqué, le gouvernement a remercier le ministère de l'Intérieur pour son grand professionnalisme dans la sécurisation de la manifestation et pour avoir assuré la sécurité des participants. Avant la protestation, la mission des Nations Unies sur place avait appelé les autorités à respecter le droit des citoyens à manifester. Et puis la fin de ce journal en Côte d'Ivoire, où la 8e édition de Cocobulle, le festival international du dessin de presse et de bande dessinée, bat son plein à la maison Nzassa à Trècheville à Abidjan. L'événement a lieu tous les deux ans et est initié par l'association Tâche d'encre, venue de République démocratique du Congo, de Tunisie ou encore du Sénégal. Cette année, les dessinateurs planchent sur le rôle des dessins de presse face à la diffusion de fausses informations. Reportage sur place de Binta Diagne.
C'est un panel de plusieurs dessinateurs originaires des quatre coins du continent. Pour eux, le dessin de presse permet d'attirer l'attention des lecteurs vers un fait de société. Willy The Kid se souvient par exemple qu'en période de pandémie de Covid-19, les dessinateurs s'étaient mobilisés en réseau pour démonter les fausses informations sur cette maladie.
Cette campagne de sensibilisation a eu un grand succès parce que les gens ont rigolé avec des informations qui faisaient peur à la base et les gens se sont repartagés nos dessins, les affiches et tout.
Trois journalistes produisent simultanément des dessins inspirés des débats. Lorsqu'un jeune pose la question de l'intelligence artificielle comme outil de travail des dessinateurs, Carlos Guédégou exprime ses réticences.
Je suis vraiment furieux par rapport à l'IA et toutes les désinformations. Il y a de l'excès, il y a trop de déformations et ça gêne.
C'est la 8e édition de ce festival de dessin de presse qui vise en particulier les jeunes abreuvés par les réseaux sociaux. Mendoza, le superviseur de Cocobulle.
Nous voulons montrer à ces jeunes-là qu'il faut utiliser les médias de façon responsable. Nous voulons aussi montrer que les dessinateurs de presse qui utilisent les dessins comme outils ont vraiment une grande responsabilité dans les messages qu'ils portent.
Au-delà des débats d'idées, plusieurs ateliers sont organisés pour initier les jeunes à la bande dessinée. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 7h41, ce festival qui s'achève ce samedi après-midi. En marge de cet événement, l'association Cartooning of Peace a présenté For Africa Facts, un manuel du fact-checker illustré par des dessins de presse. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition, Julien.
Merci Nemo Ampis, bonne journée à vous.